Catherine le matin. 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Je vous le dis là, je l'ai partagé sur ma page Facebook professionnelle. Dans ce que j'ai lu de plus dur à lire, c'est entre autres là-dedans. On parlait d'un prédateur sexuel et d'une petite fille de 12 ans, Léa, qui, la personne en question l'a poussé à faire un geste aussi horrible que de faire une fellation à son frère de 4 ans. Alors, les parents ont voulu raconter leur histoire pour dire, écoutez, ça existe, voici ce que nous avons vécu et ce que notre fille a vécu. J'ai eu de la misère à terminer l'article, mais il faut parler de ces choses-là parce que, vous l'avez peut-être remarqué, vos enfants sont peut-être davantage devant leur écran. Ils l'ont été, notamment au printemps, en confinement. Bonjour, Mme Blanchard-Dallaire. Je m'excuse, je recommence. dites-moi, comment on décortique tout ça? Il y a des parents qui nous écoutent, là, qui ont peut-être cette problématique-là. Mes enfants sont davantage devant leurs écrans. Parce qu'on a tendance à penser que des situations comme celle-là, ça arrive juste aux autres. Mais non, ça n'arrivera pas à mon enfant. Il est bien encadré, on surveille ça de près. Qu'est-ce que vous dites aux parents ce matin?
Ce qu'il faut savoir, c'est que les statistiques sur la violence sexuelle sont assez alarmantes. Hein? Quand je parle de violence sexuelle, je parle d'un phénomène un peu plus général là, que seulement la cyber-violence sexuelle. Mais ce qu'on sait, donc ce qui inclut, là, je veux dire, des agressions sexuelles, mais aussi exploitation sexuelle, leurs d'enfants, prostitution. On sait qu'il y aurait une fille sur 5, un garçon sur 10, qui rapporte avoir été victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Donc, c'est déjà là, c'est énorme. Quand on parle d'exploitation sexuelle, ben là, il y a plusieurs phénomènes, dont celui qui a été décrit là, dans l'article très percutant. Là, votre terme est très juste ce matin. Ça nous amène à réfléchir à comment on fait de la prévention auprès des enfants puis auprès des jeunes, puis à quel moment commencer cette prévention-là aussi.
Ce que je trouvais fort intéressant, parce que vous commentiez dans l'article en question, il y avait une de vos collègues également, sexologue Julie Beaudoin, qui disait ceci: les jeunes victimes de l'art ou de pornographie juvénile peuvent avoir autant de symptômes de choc post-traumatique sévère qu'un jeune qui a vécu une agression sexuelle au sens de la loi. C'est pas rien ça, Mme Blanchard-Dallaire. Donc c'est une réalité, ça se vit là.
Tout à fait. Donc, ce qu'on voit au niveau clinique, c'est que l'exploitation sexuelle, aurait les mêmes conséquences dévastatrices, même si ça implique pas nécessairement de contact physique sexuel. Puis quand je parle de conséquences, on peut parler de symptômes de dépression, de symptômes d'anxiété, de symptômes de stress post-traumatique, donc des cauchemars, de l'hypervigilance, également des troubles de comportement, des émotions très difficiles, hein, de la culpabilité, de la honte par rapport à la situation, des hésitations suicidaires, des comportements automutilatoires, donc des symptômes qui s'étendent vraiment là sur un large éventail, puis des difficultés qui peuvent se présenter dans toutes les sphères de fonctionnement puis de développement des jeunes. Donc, c'est très préoccupant.
OK. Dites-moi, qu'est-ce que les parents et les jeunes doivent surveiller? On doit être à l'affût de quoi lorsque nos jeunes sont sur des sites, des applications, les TikTok de ce monde, peu importe ce que les jeunes utilisent, de quoi ils doivent se méfier ou qu'est-ce qu'on doit surveiller de près?
Bien, c'est sûr que les conseils de prévention de base s'appliquent. Là, le principal conseil qu'on pourrait donner aux parents, c'est de continuer d'être des adultes significatifs dans la vie de leur ado, hein, même si en vieillissant, les ados vont rechercher plus d'indépendance, plus d'autonomie. Ben, faut persister, faut tenter de rester impliqué, puis surtout maintenir le dialogue ouvert sur les technologies puis sur les enjeux. L'idée, c'est d'avoir le temps de faire de la prévention, donc d'avoir des discussions avec son ado, pas seulement quand on est inquiet ou quand on est dans l'urgence, puis quand on a des signaux. Si on attend d'être inquiet pour discuter avec notre ado, ben il est fort probable là, qu'on a dépassé le moment stratégique là, où il aurait fallu en parler pour être en mode prévention. Puis dans ce sens-là, ce que j'encourage les parents à faire, c'est à utiliser des outils outils ou des exemples qui sont à leur portée pour faciliter la discussion. Donc, par exemple, une scène qui aurait été vue dans un film ou une série télé, ben, peut servir d'amorce de discussion. Donc, un parent pourrait demander à son ado, ben, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'aurais fait à sa place? Puis là, ça amène la discussion ailleurs, là, sur la prévention. Puis, par ailleurs, la Fondation Marie-Vincent a créé des capsules vidéo avec des séries de questions pour accompagner les parents dans leur discussion avec leur ado. C'est des outils qui permettent d'aborder là, des sujets comme le leurre d'enfant, la publication non consensuelle d'images intimes. Ces outils-là sont offerts gratuitement sur le site de Marie-Vincent, donc à marie-vincent.org.
Oui, puis c'est super bien fait, Mme Blanchard-Dallaire, parce que c'est important. Souvent, c'est peut-être, tu sais pas comment l'aborder, tu sais pas comment amener le sujet, et ça donne des bonnes pistes de solutions, ou ça peut aider les parents, là, peut-être même à aborder le sujet en question.
Oui, exact. Peut-être même visionner les vidéos avec leur ado, là, pour en discuter ensuite.
Je veux terminer sur un aspect avec vous parce que peut-être plusieurs personnes qui ne savent pas que l'exploitation sexuelle, ça fait partie des motifs de signalement prévus dans la loi sur la protection de la jeunesse. Mais de ce que je comprends, parce qu'il y a des gens qui veulent être indemnisés, des demandes qui ont été faites, qui ont été rejetées, il faut que ce soit modifié. Et pour quelle raison? Expliquez-nous qu'est-ce qui est problématique actuellement en mode indemnisation.
Bien, en fait, vous avez raison. Donc, l'exploitation sexuelle, c'est un motif obligatoire de signalement. Donc, on a l'obligation de signaler une situation de la sorte. Le problème, c'est qu'au niveau de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, bien, une victime qui est reconnue pourrait recevoir des indemnités et avoir droit à des services. Donc, c'est des indemnités qui vont couvrir, entre autres, les services de psychothérapie. Le problème, c'est qu'au Québec, actuellement, les victimes d'exploitation sexuelle, donc pornographie juvénile, leur prostitution, sont pas reconnues comme des victimes au sens de la loi sur l'IVAC. On a entendu là Simon Jolin Barrette confirmer que ça allait être modifié, que ça s'en venait. Mais je me permets de réitérer là l'importance du changement de loi pour les victimes. Parce que ça leur envoie un message tellement contradictoire que leur situation, c'est pas un vrai crime, c'est pas pris au sérieux, que c'est pas si grave. Ça peut amener des sentiments de colère, d'injustice profonde là, qu'on peut bien comprendre, de méfiance aussi. Puis avec toutes les conséquences que ça entraîne dans la vie de la personne, outre celle que j'ai nommée tantôt, la crainte, la peur qui est omniprésente que les photos ou les vidéos puissent ressurgir à tout moment. Hein. On peut pas leur garantir que les photos ou les vidéos sont retirées du web. Et on sait que quand on s'attarde là, à l'évaluation des impacts chez les jeunes, on s'attarde à la situation de violence sexuelle, donc la sévérité, la fréquence, mais aussi tous les événements qui ont découlé de cette situation-là, donc le dévoilement, l'enquête policière, l'implication de la DPJ, les témoignages à la cour, l'IVAC, tout ça peut avoir des impacts sur comment va fonctionner les jeunes. Donc, c'est d'autant plus important là, de les soutenir à tous ces niveaux-là.
Absolument, c'est bien dit. Comme vous le disiez tout à l'heure, la modification à la loi, ça s'en vient. On nous avait prédit ça pour l'automne, alors on est toujours en automne. Alors on va attendre, mais ça devrait s'en venir bientôt. Merci Mme Blanchard-Dallaire pour l'entrevue ce matin.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Merci, au revoir. Claudia Blanchard-Dallaire, psychologue auprès des enfants et des ados à la Fondation Marie-Vincent.